et crainte et tremblement, sachant que ta parole, c'est toi. La forme écrite, ce que nous allons lire, ce qui est sorti de ta bouche, c'est par cette parole même que tu as amené les cieux et la terre à l'existence. C'est par cette parole même que nous vivons. C'est par cette parole même qu'il y a tout ce qu'il y a dans l'univers visible, dans l'univers invisible. Ta parole a créé toutes choses. De nous assister, te remercions de nous permettre de sonder les profondeurs de cette parole. Nous t'en remercions pour cela et te demandons de nous assister pendant la prédication et l'audition, que nous ne tordions pas le sens de ce qui a été dit, que tu nous affermisses davantage, que le Saint-Esprit nous aide et pour nos nombreux péchés, te demandons à ce qu'il ne fasse pas obstacle à notre communion aujourd'hui, à notre conversation, à notre audition, à notre réunion, que nous puissions bénéficier de ta présence selon ta promesse. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin, ce soir, dans 2 Rois. Dans 2 Rois 6, verset 17. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons rejoindre la prière d'Élisée, en l'appliquant sur nous-mêmes, en l'appliquant sur nos bien-aimés qui en ont besoin. Et nous intitulerons cela « Ouvre ses yeux ». Et ouvrir les yeux, c'est dans un but. C'est dans le but que le serviteur puisse voir. Il y avait beaucoup de choses autour d'eux que le serviteur ne voyait pas. Et c'est un peu la vie de beaucoup d'entre nous. Il a reconnu qu'Élisée était un homme de Dieu. Il a suivi Élisée. Il a vu beaucoup de choses que Dieu a faites pendant le ministère d'Élisée. Dieu a montré de grandes choses pendant ce ministère. Ce serviteur a vécu ces choses. Il a vu, si vous regardez plus haut, à partir du verset premier, on ne regarde pas le chapitre 5 parce que là, apparemment, c'était un autre serviteur. C'était Géasi, mais Géasi a été frappé de lèpre, n'est-ce pas? Si on voit au chapitre 5, verset 27, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Donc, nous pensons que Géasi, surtout que Géasi, sorti de la prison d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Comme ça a été maudit pour toujours, on doit se dire qu'ici, il s'agit d'un autre serviteur. Le nom n'a pas été donné. Et celui-ci, il a pu voir, il n'a pas assisté peut-être à la guérison, il en a peut-être entendu, à la guérison de Naaman, mais il a entendu et il a vu un fer de hache surnager. N'est-ce pas? Verset 1 à 7, les fils de prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consent à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux, Élisée. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Ce n'était pas son fer, ce n'était pas sa hache. Il avait emprunté. Maintenant, il devait rembourser ça. Ouais. Et c'était des objets précieux à l'époque qui n'étaient pas facilement, comment dirais-je, fabricables. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté, c'était pas à moi. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la pièce, la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Deuxième chose à laquelle il a pu assister, nous voyons ici le serviteur de Dieu assister, n'est-ce pas, comment son maître Élisée dévoile les plans militaires de la Syrie, n'est-ce pas? Comment il disait, il prévenait le roi de Syrie et lui disait, écoute, garde-toi de passer par ce lieu, car les Syriens y descendent. Garde-toi d'aller à tel endroit, car les Syriens y sont. Et tout cela se vérifiait. Il a vu comment la main de Dieu était sur lui. Et pendant que il voyait tout cela, lui ne voyait qu'Élisée. Comme aujourd'hui, beaucoup suivent un prophète, ils ont les brochures, ils voient les brochures, ils voient ce que Frère Branham a fait, ils voient ce que Dieu a fait au travers du Frère Branham, ils voient toutes ces choses dans ce ministère, ils voient ça. Ils voient l'écureuil être créé, ils voient des morts ressuscités, ils voient des maladies, des infirmes être guéris, ils voient ça. Et ils sont là toujours, Frère Branham a fait, Frère Branham a fait ceci ou fait cela. Aujourd'hui, Frère Branham n'étant plus là, je ne sais pas s'ils s'imaginent que tout ce qui était autour de Frère Branham, l'atmosphère qui était tout autour, cette atmosphère n'est pas morte. Elle est toujours vivante aujourd'hui. C'est la même atmosphère qui accompagne l'Église, qui accompagne la prédication de la parole. Ce qui fait, si on a foi en cette parole, exactement comme les gens avaient foi au temps du frère Branham, si les gens marchent comme en ce temps-là, eh bien, c'est sûr que nous aussi, nous verrons. Normalement, nous devons savoir qu'il y a plein de choses autour de nous. Si vous craignez l'Éternel, il y a une promesse. Hein? Psaume 34, 8 nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et camper, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire s'établir. S'établit, donc il a campé, et quand vous levez le camp, ben, ça veut dire au moment où vous partez, eh ben, lui aussi il part avec vous, parce qu'il est avec ceux qui craignent l'Éternel. Il ne campe pas devant leur maison de telle sorte que s'ils sortent, l'ange éternel reste. Non, l'ange éternel est constamment avec lui. C'est une promesse. Une autre promesse, Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. C'est une promesse. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. C'est une promesse. Et comme il est la vérité, il ne peut pas mentir, eh ben, c'est sûr qu'on peut le voir. Mais maintenant, pour le voir, il faut avoir les yeux ouverts. Et pour ce qui est de Gazi, Gazi dit à son serviteur, quand il voit son serviteur venir, c'est là qu'il prie pour lui, parce que Élisée était tranquille. Les Syriens, comme Élisée dévoilait chaque fois leur plan, eux, ils ont décidé, avant de s'attaquer à Israël, d'aller capturer Élisée. Et c'est pourquoi ils sont venus, ils ont entouré la maison d'Élisée pour pouvoir le prendre. Mais Élisée restait tranquille. Alors le serviteur a tremblé, sachant que son maître, il dévoilait les plans des Syriens et que les Syriens sont venus chercher son maître. Et lui, en tant que serviteur d'Élisée, ben, il allait certainement en souffrir. Alors, au verset 15, le serviteur de l'homme de Dieu se leva, donc 2 Rois 6, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous pour nous en sortir? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Donc, ils ne se rendaient pas compte qu'il y avait des gens qui étaient avec eux. Et ils étaient en plus grand nombre que ces Syriens-là pour pouvoir rentrer. Et tout comme aujourd'hui, beaucoup ne se rendent pas compte que Jésus est avec eux, que Jésus est visible, que Jésus est approchable, n'est-ce pas? Alors, Élisée, il savait que que ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre, mais son serviteur, lui, ne le savait pas. Il avait beau être serviteur d'Élisée, mais il ne le savait pas. On a beau être quelqu'un qui suit Frère Abraham, mais il y a plein de choses qui peuvent encore nous échapper. Qu'est-ce qui fait que le serviteur ne voyait pas ceux qui les entouraient? La peur, évidemment. Il avait peur. Et si vous regardez bien, après la, même avant avant sa mort et sa résurrection, un des messages que le Seigneur donnait souvent à ses disciples, c'était « N'ayez pas peur ». La peur, c'est très mauvais dans la mesure où elle nous, comment dirais-je, elle nous voile les yeux. Hein? Vous voyez ce que vous ne devriez pas voir, mais ce que vous devriez voir, vous ne voyez pas. Hein? Dans Matthieu 8, verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui dormait. Et qu'est-ce qui fait que les disciples se mettent à trembler alors que le Seigneur est avec eux? C'est le fait que la barque se remplissait d'eau, remplissait de flots, et lui, pendant ce temps-là, il dormait. Mais il ne pouvait pas voir le fait qu'il dormait, que même dans son sommeil, il est, nous le disons souvent, il est le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Or, David donne ce témoignage de l'Éternel, de Yahweh, dans l'Ancien Testament. Il dit, il ne sommeille ni ne dort. Donc, si Jésus en tant qu'homme, il dort, mais le Dieu qui est en lui ne dormait pas. Donc, vous n'avez rien à craindre. Ça, ici, il est venu en tant qu'homme parce qu'il devait accomplir cette tâche-là de rédemption en tant qu'homme. Mais c'était Dieu. C'était Dieu dans la chair humaine. Donc, qu'il soit là, dormant ou ne dormant pas, ça ne changeait absolument rien. Et aujourd'hui, c'est pareil. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, il a dit que vous le verriez, que si vous vous assemblez à deux ou trois au milieu d'eux, il est au milieu de vous. Il a dit, normalement, si on ne le voit pas, cette prière d'Élisée s'applique à nous, si on ne le voit pas. Du moins, elle s'applique à ceux qui ne le voient pas. Parce qu'il faut le voir. Et il faut le voir, pas, évidemment pas tout le temps, mais savoir, avoir cette certitude qu'il est là. Et là, c'est là où le problème de la foi intervient. Parce que, vous savez, il faut faire la différence entre la foi et l'espérance. L'espérance, on espère que quelque chose arrive. Donc, en fait, on espère ceci. Ça veut dire qu'on voudrait que tel événement se fasse, s'accomplisse. Ça, c'est espérer. J'espère pouvoir arriver à destination. Ça, je souhaite y arriver. Mais vous ne faites que souhaiter. Vous ne savez pas si ça va arriver ou pas. Par contre, la foi, vous voyez votre arrivée par la foi. Et nous, en tant que chrétiens, L'apôtre nous donne ce conseil, il dit, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Parce que la foi, elle voit, l'apôtre dit aux Hébreux, c'est une démonstration de la chose qu'on espère. Vous êtes malade, vous espérez être guéri, vous espérez que votre être soit guéri, votre cher être soit guéri, vous espérez. Mais maintenant, la foi voit sa guérison. C'est ça la foi. Et si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas sa guérison, il est temps qu'on prie pour vous, pour que Dieu augmente votre foi. Quand je dis vous, c'est moi, pareil, c'est pour nous tous. Donc, c'est le moment que l'on prie pour que Seigneur ouvre les yeux du frère François, pour qu'il voie. Ça, c'est parce que la foi, elle voit. Et même dans des situations, on va y arriver, parce que pour le moment, on traite la problématique de la peur. La peur fait que quand on voit qu'il y a un danger, du coup, on oublie que la personne avec qui on est, Jésus-Christ, eh ben, est au-dessus de ce danger-là. Parce que à cause de la peur, de la crainte. Et il dit, il les a même réprimandés. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Vous voyez, si vous avez la foi, vous ne pouviez pas avoir peur. Parce que celui qui parle à la tempête est là. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Oui, mais ils étaient tellement étonnés, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Vous voyez pourquoi ils avaient peur? Mais David avait expérimenté ces choses. David avait dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, qu'importe où je partirai, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. David avait fait cette expérience-là. Et Hébreux 11 nous donne le témoignage de la foi de David. Hein, c'est la foi, c'est pour l'avoir possédée, n'est-ce pas? Les anciens ont eu un témoignage favorable. Il y a encore, dans Matthieu 14, encore une tempête, où Pierre a réussi à marcher sur l'eau pendant un certain temps. Mais qu'est-ce qui l'a fait couler? La peur. Encore une fois, la peur. Matthieu 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples. Et quand on dit aussitôt après, il y a eu de grands miracles qui se sont passés. Il y a eu une multiplication des pains qui est arrivée avant. Et les gens ont mangé. Hein? Verset 21, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc c'était un grand miracle, un miracle de création. Ah mais maintenant, le Créateur leur dit, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Il a déjà calmé une tempête devant eux. Maintenant, c'est le pain qu'il multiplie devant eux. Ben, quand il l'eut renvoyé, la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, c'est une grande peur, ils poussèrent des cris. Ils devaient savoir que le Créateur est capable de marcher sur l'eau. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Vous voyez, il faut avoir ces yeux-là, de voir en Jésus-Christ le Dieu créateur qui est auprès de vous. Il faut avoir ces yeux-là, de voir en Jésus-Christ celui qui peut vous secourir, qu'il est au-dessus de votre problème. Hein? Pas les yeux qu'on a. Les yeux de la foi voient votre problème petit. Dites amen à ça. Par contre, les yeux naturels voient le problème très grand. Alors, nous nous refusons de regarder avec les yeux naturels. Mais pour cela, il faut la foi. Il faut, et la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas? Il y a la peur. Qu'est-ce qui peut encore empêcher quelqu'un de voir le Seigneur à côté de lui? La tristesse. Voyons Cléopas et son ami faire route avec le Seigneur. Ils font route avec le Seigneur, mais ils sont tellement tristes que la Bible dit que leurs yeux étaient empêchés de le voir dans Luc 24. Ou de le reconnaître, mais en tout cas, ce sont les yeux. Et c'est là où l'apôtre prie, plutôt le prophète prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. C'est le but d'ouvrir les yeux pour qu'il puisse voir. Et verset 13, Luc 24, 13, et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Oui? Quel était le problème? Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils étaient envahis par la tristesse. Et la tristesse, c'est vrai, nous empêche de voir. Nous empêche de voir le Seigneur. Nous empêche de voir qu'il est là, le grand consolateur, le grand Dieu, créateur de l'univers. Il est bien là. Dieu ne nous abandonne pas. Et pourtant, nous le chantons. Il est mon compagnon en tout temps. Il est mon compagnon dans la misère. Il est mon compagnon dans la joie. N'est-ce pas? Nous le chantons. Mais réalisons-nous ce que nous chantons. Mais allez, nous restons quand même. Nous restons confiants dans la mesure où il y a une prière qui est là dans la Bible, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et c'est cette prière, elle s'accorde également à vous et à moi. Et vous savez, en ce qui concerne Cléopas, cette prière va être exaucée. Cléopas et son ami, puisque il va leur ouvrir les yeux. Hein? Au verset 31. Pendant au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Ouais, vous voyez là l'importance des actions de grâce. Hein? Il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Vous voyez? Et quand leurs yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu. Et il disparut de devant eux. Maintenant, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et vous voyez, le fait que le cœur brûle, le fait qu'on prêche à partir de la chair ici, on peut prêcher une parole qui fait battre le cœur, le fait que le cœur batte ne fait pas encore que vous voyez le Seigneur. Leur cœur brûlait pendant qu'il leur expliquait, mais ils ne le reconnaissaient toujours pas. Ils l'ont reconnu sur la fin, mais ils l'ont reconnu et en fait, pour qu'ils le reconnaissent, il a dû leur ouvrir les yeux. Et c'est notre prière ce soir, qu'il nous ouvre les yeux, n'est-ce pas, pour que nous puissions voir. Maintenant, pour eux, pour Cléopas et pour son ami, il était visible à l'œil nu. Maintenant, mais ça, ce n'était plus important. Ils savaient qu'il était près d'eux. Ils savaient qu'il n'était pas loin, puisque il parlait de lui. Frère Abraham dit, quand vous parlez de lui, c'est là qu'il vient au milieu de vous. Il faut parler de lui et non pas parler des dernières chaussures qui sont sorties chez je ne sais pas quel magasin, et non parler de la dernière acquisition que vous avez faite. Ça, ce n'est pas important. Parlez de Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit. Quand vous parlez de lui, il viendra au milieu de vous. Mais si vous parlez de la dernière acquisition, eh ben, il ne sera pas nécessairement là. Et vous, montre-moi, et vous allez regarder. Oh, oh c'est beau, hein, mais c'est joli. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est de parler de lui. Jésus est grand. Jésus est merveilleux. Il a fait ceci, mais il a fait cela. Ah, voilà, il y avait telle chose. Et j'ai vraiment vu la main du Seigneur. Vous en parlez et vous allez voir l'onction qu'il va avoir au milieu de vous. Et qu'il soit visible ou pas, ça ne vous impressionne plus. Hein? Le jour peut décliner ou pas. Cela ne change plus rien. Et eux, maintenant, ils sont là. Ils savent une chose. Dès qu'ils l'ont reconnu, verset 33, ils n'ont plus attendu. Hein. Ils ont peut-être déjà payé l'hôtel. Ils ont peut-être déjà payé leur séjour. Mais non, ils ont regardé, notre place n'est pas ici à l'hôtel. Malgré qu'on a déjà payé, ben, tant pis pour l'argent qui est parti. Cet argent-là n'avait plus d'importance. Et il dit, allez, on rentre à Jérusalem. Mais il fait nuit, ce n'est pas grave, il est là. Et s'il est là, nous ne craignons rien. Se levant en l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, vous savez quoi? Le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin. Eh bien, on parlait de lui et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Qui t'amène à ça? Amen. Non, eux, ils savent juste une chose, c'est que le Seigneur est ressuscité. Alors, pour vous et pour moi, pour les problèmes qui nous assombrissent la vie, qui nous accablent, qui nous empoisonnent l'existence, pour les problèmes, il y a une réalité que nous devons savoir, que nous devons connaître. Dans 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Amen. Dans Romains 8, il dit ceci. Retenez 1 Jean 4. Verset 14, Romains 8, il dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes conduits par le Saint-Esprit, parce que souvent dans nos conversations, il y en a beaucoup qui me disent, un jour je parlais avec un frère au téléphone, il était là, il me disait, le Saint-Esprit me dit, si le Saint-Esprit vous dit des choses, il faut que cela soit conforme à ce qui est divin. Parce que le Saint-Esprit, ils sont les choses de Dieu. Hein? Le Saint-Esprit ne vient pas pour les fausses, pour les accusations. Non, non. Le Saint-Esprit traite votre cas sur vous-même. Amen. Vous voyez? Maintenant, sur l'autre, le Saint-Esprit traitera le cas sur lui. Vous voyez? Donc, 1 Jean 4. Vous, verset 4, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Vous avez vaincu qui? L'antéchrist. Vous les avez vaincus. C'est plusieurs antéchrists qui sont venus dans le monde, les faux prophètes, hein, verset 1er, hein, éprouvez les esprits Hein? N'ayez pas peur de ces choses-là. On a beau vous dire, n'ayez pas peur de ça. La sorcellerie n'a pas d'effet sur Jacob. Si quelqu'un s'en va et qu'on a fait des maléfices sur lui, c'est que Dieu a permis. C'est Dieu qui a le pouvoir sur la vie et la mort. Ne jamais se laisser conduire par le fait que ce sont des esprits ou quoi. Ne passez pas votre temps à ça. Remerciez Dieu pour toutes choses. Comme nous avons vu mercredi, nous lui rendons grâce pour toutes choses. Hein? Donc, verset 1er, il dit, « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Maintenant, si quelqu'un vient, il essaie de vous impressionner, vous montrant que le Saint-Esprit lui parle à tout moment, le Saint-Esprit n'est pas bavard. Il n'est pas bavard du tout. Oui, il y a une fois, justement, la personne qui me disait ça au téléphone parlait d'une autre personne qui lui racontait, je crois que c'était sa sœur, qui lui racontait que si elle devait aller quelque part à un certain endroit, il y aurait des problèmes. Que le Saint-Esprit l'avait promis, lui avait prédit, lui avait fait voir qu'à tel endroit, s'il y va, il y aura des problèmes. Alors, le frère me dit ça. Il me dit, le Saint-Esprit, moi aussi, mais frère, quand le Saint-Esprit te montre qu'il y aura des problèmes si tu vas là-bas, ben, n'y va pas. Pourquoi tu y vas ? Pour te vanter par après, ouais, le Seigneur m'a averti. Oui, mais tu es dans des problèmes. Oui. Alors, donc, cette histoire, ne vous laissez pas impressionner par ça. Beaucoup aiment bien utiliser ça. L'Esprit m'a parlé. L'Esprit n'est pas bavard. C'est vrai, il parle. Il n'est pas muet du tout. Il parle, il conduit, il inspire. Il fait tout cela, mais il n'est pas bavard. Si toutes les 10 minutes, il vous parle, finalement, bien. Donc, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et c'est dans ce temps-ci, dans le temps de l'Odyssée, c'est tellement proche de la vérité. Parce qu'un grand mensonge, ce n'est pas le fait de dire que... Qu'est-ce que je peux dire ? Le fait de dire qu'on a vu le synthétiseur s'envoler tout seul. Non, ça peut être un gros mensonge. Mais un gros mensonge, c'est quelque chose qui est tout près de la vérité. C'est le pire des mensonges, parce qu'il semble tellement vrai. Oui. Voilà. Alors, vous les avez, mais ces faux prophètes-là qui sont venus dans le monde, Jean dit, vous ne les craignez pas. Vous les avez vaincus. Amen. Vous êtes des vainqueurs. Vous les avez vaincus. Pourquoi est-ce que vous les avez vaincus? Parce que vous êtes fondants. Non, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ce que nous devons savoir, que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, c'est comme ça qu'ils ont vaincu. Ils ont réalisé qu'il y a quelqu'un qui est en eux. Et avec les yeux de la foi, vous pouvez le voir. Et ça, c'est le grand problème de l'Odyssée. L'Odyssée croit bien voir. L'Odyssée est aveugle. Oui. Beaucoup de choses se passent en l'Odyssée, de grandes choses que les gens ne voient pas. Et nous avons dit que les élus sont équipés de choses, des sens qui leur permettent de voir, des yeux spirituels. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes la fin du monde, la fin du système du monde est quasiment arrêtée. Pas quasiment, est arrêtée. On peut voir ça, c'est écrit. Sur le mur. Les gens ne voient pas ça. Vous devez le voir. Nous sommes vraiment sur la fin. Amen. Nous sommes vraiment sur la fin et nous ne devons pas, nous ne devons certainement pas nous en faire autrement, mais nous sommes sur la fin. Dans Apocalypse 3, On va terminer. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Eux, leur richesse, Laodicée voit sa richesse dans les dollars et dans les euros. Mais ce n'est pas de cette richesse-là qu'il s'agit. Cette richesse-là peut gonfler votre compte en banque, mais ne peut pas vous guérir d'une maladie incurable. Vous pouvez être très riche et avoir une certaine maladie qu'un très pauvre a, vous êtes sur la même enseigne. Bien. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, quelqu'un de misérable, c'est quelqu'un qui est sans Dieu. Il est vraiment misérable. Quelqu'un qui n'a pas de Dieu, miséricordieux, il est misérable. Il est voué à lui-même. Il peut essayer tous les plaisirs de la vie. Il n'est jamais satisfait. Et il va pousser sur le frein pour qu'il ne vieillisse pas. Il ira de chirurgie en chirurgie, mais la chirurgie n'enlève pas les âges. Amen. Les articulations continueront à faire mal. Hein? Vous avez peut-être un visage jeune, on a tiré de partout, mais les genoux craquent. Amen. Vous avez mal partout. Je suis riche. Hein, n'est-ce pas ce qu'ils disent? Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, vois pas, et nu. Alors, il donne ce conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Si tu veux être riche, va acheter de l'or, pas à la bourse de Bruxelles, non. Acheter de l'or éprouvé par le feu. Le feu de la parole. La parole de Dieu est un feu. C'est un feu dévorant. C'est aussi un marteau. Si vous voulez de l'or battu, la parole de Dieu est aussi un marteau. Afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et pour notre sujet de ce soir, un collier, il faut acheter ça. Un collier pour oindre tes yeux. Dans quel but? Afin que tu voies. Oui. Afin que tu voies. Que tu voies les bonnes choses que Dieu a mises à ta disposition. Beaucoup souffrent, beaucoup se lamentent parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce que Dieu a mis en présence pour eux. Cela vaut bien pour que nous puissions avoir les yeux ouverts. Que Dieu est là. Celui qui règle nos soucis, il est là. Vous savez les soucis? Regardez, Luc. Je crois. Luc 21, pardon. Avant que le jour de Dieu, le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour-là prendra les gens à l'improviste. Parce que le jour de l'Éternel commence quand? Commence à l'enlèvement. Or, l'enlèvement lui-même est un événement imprévu qu'on ne peut pas prévoir. Donc, ça viendra à l'improviste. Ça va? Alors, il dit ceci au verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Oui. Les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, sur la surface de toute la terre. Donc, il ne faut pas que cela nous prenne à l'improviste. Ayons les yeux ouverts pour que les problèmes, les soucis, la tristesse, le chagrin, la faim, tout ce qui peut arriver ne nous empêche pas de voir les réalités invisibles du Dieu vivant. L'enlèvement est une réalité. J'ai pris le train dernièrement. Et quand le train est sur le point d'arriver, vous voyez tous ces habitués-là qui prennent le train. Hein, vous les voyez tous prendre position, sachant que le train va arriver. C'est remarquable de voir que avant que le train n'arrive, on entre même en gare, ils savent que le train va entrer en gare. Il est annoncé, le train est annoncé. Nous aussi, l'enlèvement est annoncé. Les nuées là qui vont nous prendre sont annoncées. Oui. Et nous devrions aussi fourmiller sur le quai, hein, comme dit le frère, le signal rouge de sa venue. Et ça est allumé pour nous permettre d'arriver. Maintenant, s'il tarde, ça arrive. Le train était prévu à 14h52. Eh bien, on vous met, il est en retard. Mais il est arrivé quand même. C'est vrai qu'il était en retard, mais il était arrivé. Et tout ça, c'est le naturel qui nous parle du spirituel. C'est vrai que l'enlèvement tarde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit, n'est-ce pas? Dans Pierre. Ça tarde à arriver. Pendant ce temps-là, on subit pas mal de maux, subit pas mal de choses qui ont tendance à nous enlever notre foi. Dans 2 Pierre, chapitre 3. Verset 3, sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre attirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Ça va? Alors, verset 9, le Seigneur, en fait, nous, on a tendance à voir que l'enlèvement tarde à arriver. Mais il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Ce n'est pas une question de retard. Enfin, ceux qui sont en retard, c'est nous. Il dit, comme quelques-uns le croient, mais s'il tarde dans l'accomplissement de la promesse, c'est parce qu'il use de patience envers nous. Si Dieu n'était pas patient envers nous, eh ben, l'enlèvement aurait déjà eu lieu. Et si Dieu n'était pas patient envers nous, eh ben, nous aurions été pris à l'improviste, nous aurions été pris au dépourvu, et voilà, l'enlèvement aurait eu lieu parce qu'on n'aurait pas été prêt. Mais Dieu veut que nous soyons prêts. En fait, ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est vous et moi qui tardons. Si nous étions prêts, il serait déjà venu. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que nous restions. Il veut que nous soyons auprès de lui, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En ce qui concerne l'assemblée de la rue de Firlan, Dieu veut que toute l'assemblée de la rue de Firlan arrive à la repentance. Si c'est le cas, l'enlèvement pour la rue de Firlan, elle est quasiment prête. Et pas seulement ici à la rue de Firlan, mais partout où on attend son avènement. Ça va? Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah, n'oublions pas ça. Donc, toutes ces choses, ces soucis, ces problèmes, c'est ce péché qui nous enveloppe si facilement, n'est-ce pas? Puisque nous devons arriver à la repentance, ces choses, eh bien, c'est ça qui nous empêche de voir que l'enlèvement est imminent. Et qu'est-ce que nous voyons? Et avec ça, nous devons passer par des situations tristes, par des situations pénibles, hein, où nous voyons que Dieu est obligé d'aller faire attendre les autres dans la tombe. Mais ils seront enlevés. Mais quand il les envoie attendre dans la tombe, nous qui restons, nous sommes tristes. Nous sommes affligés. Nous sommes dans la douleur. Mais eux, ils vont se poser. Ils ont la part belle. Par contre, nous, nous avons la part difficile. C'est vrai que la difficulté dans ces cas-là, c'est de franchir le pas. Mais une fois que le pas est franchi, ils ne veulent plus revenir. Hein. Oui, c'est ça le problème. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur ouvre nos yeux afin que nous voyons. Les yeux spirituels, les yeux de la foi. Quand ces yeux naturels nous montrent le cercueil, la tombe, les yeux de la foi voient la résurrection. Lorsque les yeux naturels voient la pénibilité de la vie, les yeux de la foi voient l'enlèvement. Prions le Seigneur. Le Seigneur nous ouvre les yeux. Père Céleste, c'est vrai, nous vivons un âge où la cécité bat son plein, là où la vision des choses est difficile. Cette vision que toi qui la donnes, la vraie, véritable vision, et tu as promis que dans les derniers jours, tes enfants, tes fils, tes filles et tes filles, tes fils et tes filles auront des visions. Que tu nous assistes. Nous te remercions ce soir pour cette exhortation, ce collier que tu nous demandes. Venir acheter auprès de toi, sans argent, sans prix, que nous puissions voir Jésus-Christ autour de nous, pour que nous puissions voir Jésus-Christ au milieu de nous, selon sa promesse, pour que nous puissions le voir selon qu'il a dit, le monde, lui, ne le verra plus. Aussi, nous ne voulons pas aller dans le monde, puisque dans le monde, il n'est pas visible, mais il est visible, oh Dieu, auprès des tiens, que nous puissions voir, le voir à l'œuvre, au travers des frères, au travers des sœurs, oh, au travers des événements, au travers de tout ce qui peut se passer autour de nous, au travers de ta création, au travers du vent, au travers des tempêtes, au travers de tout cela, que nous puissions te voir, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, comme nous le chantons, je désire le voir face à face. Cela est possible. Cela dépend de toi. Si tu nous ouvres les yeux, comme tu as ouvert ceux de Cléopas et de son ami, puisses-tu nous les ouvrir, que la tristesse, le chagrin, la détresse, la douleur ne nous empêche pas de voir, que cela ne nous rende pas aveugles. Oh, comme le serviteur d'Élisée qui avait peur, qui était effrayé de voir les Syriens les entourer. Oh, la réponse était, ne crains pas, ne crains pas. Alors, il a prié, il a dit, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont là, que ceux qui nous entourent. Nous savons que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous savons qu'il est là, c'est une réalité. Merci pour ta protection. Merci pour, oh Dieu, pour l'accomplissement de tes promesses. Et nous te demandons pardon pour nos doutes. Nous te demandons pardon parfois pour nos relâchements. Et nous te demandons de bien vouloir nous refortifier à nouveau, nous redonner du courage, ce courage qui a fait rentrer Cléopas et son ami à Jérusalem. Or, malgré le jour qui était sur son déclin, malgré, ô Seigneur, ô Dieu, malgré peut-être qu'ils avaient déjà pris et qu'ils réservaient une chambre à l'hôtel, à l'auberge, mais tout cela ne valait plus rien. Ils ont voulu rentrer là où tu allais te manifester encore à nouveau, c'est-à-dire au milieu des frères et des sœurs qui étaient là tous assemblés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous te le demandons, que nous t'adressons notre prière ce soir et nous t'en remercions. Amen. Dieu vous bénisse.